Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente. Sans préjudice de la loi fondamentale dont s'est doté le Chili en matière de droits de l'homme, un certain nombre d'arrêts ont été rendus dans ce domaine. En matière environnementale, la Cour suprême a joué un rôle clé dans l'adoption de mesures relatives à l'administration de l'État en la matière. C'est le cas, par exemple, dans l'affaire Quintero et Puchukavi, où le tribunal, en mai 2019, a adopté 15 mesures qui visent à être mises en œuvre par les organes contrevenants. Et en matière migratoire, la Cour suprême a arrêté une liste qui reprend un certain nombre d'éléments que l'administration doit prendre en compte de manière à permettre, lorsqu'elle autorise des expulsions, comme par exemple le fait d'éviter que soient séparés un père, une mère et et leurs enfants, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a aussi la question des garanties judiciaires ou encore de la proportionnalité de la mesure qui sera adoptée. Pour ce qui concerne la nationalité, la Cour suprême de notre pays a fait preuve de cohérence puisqu'elle a toujours reconnu la nationalité chilienne des enfants d'étrangers nés sur notre territoire à qui l'on avait nié ce droit en raison du fait que leurs parents étaient des migrants clandestins. Pour ce qui concerne les garanties judiciaires et les détentions illégales, la jurisprudence de la Cour suprême a signalé que l'on s'en remettait à la responsabilité des juges et procureurs. Cependant, ceci s'applique également aux policiers. Il y a toujours la loi prévoit toujours que le contrôle soit exercé à propos de quiconque exercerait de telles facultés. Pour ce qui concerne le fait d'être jugé dans des délais raisonnables, cet élément a fait l'objet d'une analyse objective de la part de la Cour pénale qui établit un lien entre ce droit et l'accès à la justice et elle a reconnu que ce principe se portait également sur les délais d'enquête ou encore la durée de la détention préventive. S'ajoute à cela l'élaboration d'un protocole d'accès à la justice pour les personnes privées de liberté qui va servir de guide pour les recommandations qui seront adressées aux juges et fonctionnaires du pouvoir judiciaire dans ce domaine. Pour ce qui concerne la justice transitionnelle, la Cour suprême dispose d'une jurisprudence constante en la matière puisqu'elle a déclaré le caractère imprescriptible de ces crimes contre l'humanité qui ont été commis entre le 11 septembre 1973 et le 11 mars 1990 en invoquant différentes règles de droit international humanitaire et de droit international des droits de l'homme. La tendance en matière de jurisprudence, tendance majoritaire au sein de la Cour suprême, a toujours été cohérente puisque celle-ci n'a jamais appliqué de prescription aux faits de crimes contre l'humanité qui ont été commis au moment de la dictature. Depuis, pour ce qui concerne les actions les actions civiles en matière d'indemnisation pour les crimes contre l'humanité qui ont été commis par les agents de l'État au cours de cette période, la Cour suprême a toujours défendu une position claire en reconnaissant le caractère imprescriptible de ces actions. L'intérêt supérieur de l'enfant et des adolescents a toujours été une préoccupation centrale pour le pouvoir judiciaire, car nous l'avons considéré comme étant en tout temps pertinent. Et en plus d'une politique créée à cet effet, qui est en pleine mise en œuvre, nous avons lancé une étude déterminant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures judiciaires de protection de ces derniers. Enfin, j'aimerais mettre en exergue les efforts de réforme qui sont en cours à l'heure actuelle et qui constituent le rôle actif que jouent les tribunaux en matière de défense des intérêts vitaux des enfants et des adolescents, comme par exemple les lois renforçant les obligations en matière de pension alimentaire, le recouvrement de ces dernières avec la création d'une institution inédite à cette fin. Merci.